Le journal vous est présenté par Anne Fauquemberg.
Bonjour. Jean-Marc Ayrault a reçu ce matin les représentants des familles des victimes du crash de l'A320 d'Egypt Air. 66 passagers étaient à bord, dont 15 Français. Nous entendrons le ministre des Affaires étrangères au début de ce journal, puis nous serons en direct avec Michel Polaco, spécialiste aéronautique de France Culture. Des alertes automatiques de l'Airbus ont relancé le débat sur les causes du crash ce matin. Nous serons également en direct avec François Deveau, président de l'association La Parole Libérée, qui regroupe les victimes des scandales pédophiles dans l'Église. Il réagira au propos du cardinal Barbarin. Après sa rencontre avec le pape François hier, le cardinal qui ne compte pas démissionner pour l'instant. Au Japon, les ministres des Finances du G7 ne sont pas parvenus à innover, inventer pour répondre aux difficultés de l'économie mondiale. Le sommet se referme sur fond de division, nous dira Frédéric Charles, là, à une semaine du sommet des chefs d'État et de gouvernement. Enfin, nous irons à Strasbourg, au Parlement européen, où plus de 7000 jeunes réfléchissent jusqu'à ce soir à l'avenir de l'Union européenne. C'était dans la nuit de mercredi à jeudi, l'avion de la compagnie aérienne Égyptaire qui relie Paris au Caire disparaît des radars et s'écrase dans le sud-est de la mer Égée. 66 disparus, dont 15 Français. Jean-Marc Ayrault a reçu les représentants des familles des victimes au Quai d'Orsay ce matin. On écoute le chef de la diplomatie française.
Toutes les hypothèses sont examinées et aucune n'est privilégiée. Notre objectif est double, solidarité avec les familles, mais aussi transparence à leur égard sur les circonstances de la disparition de cet avion. Les enquêteurs du BEA sont déjà arrivés au Caire hier après-midi pour participer à l'enquête qui est ouverte par l'Égypte. Nous avons également mobilisé un avion et un bâtiment de la Marine nationale pour contribuer aux recherches. Enfin, notre ambassade au Caire accueille les familles qui souhaitent se rendre en Égypte. Certaines l'ont fait dès hier. Des informations circulent ici ou là, parfois d'ailleurs contradictoires, et donnent lieu trop souvent à des interprétations presque définitives. Je mets en garde contre cette manière de faire, car elle met les familles dans une tension douloureuse et que je voulais exprimer devant vous.
Des propos recueillis par Jérôme Jadot. En plus des opérations de recherche avec l'Égypte et la Grèce, la France, on vient de l'entendre, a envoyé au Caire 3 enquêteurs du Bureau d'enquête et d'analyse, le BEA. Dans l'attente d'une éventuelle localisation des 2 boîtes noires, ces agents vont analyser les premiers débris de l'appareil qui ont été retrouvés hier en Méditerranée. Le BEA qui a par ailleurs confirmé ce matin que l'A320 d'Égyptair a transmis des messages automatiques dits ACAR, des messages qui indiquent qu'il y a eu de la fumée en cabine un peu avant la rupture des transmissions des données. Bonjour Michel Polaco.
Bonjour.
Vous êtes le spécialiste aéronautique de France Culture. Que faut-il penser de ces messages ?
Écoutez, ce sont des messages intéressants. Il y en a 7 successivement entre 2h26 et 2h29. 2h29, c'est l'heure de disparition complète de l'avion. En 3 minutes, on a 7 messages qui commencent par des messages faisant part d'un problème sur le système de dégivrage des fenêtres du cockpit. Puis ensuite un problème aussi lié aux fenêtres du cockpit, si elles sont bien ouvertes ou pas, bien fermées ou pas. Puis ensuite on a 2 messages parlant de fumée, l'un dans les toilettes et l'autre dans la soute avionique. Encore un message concernant les fenêtres de l'avion, puis ensuite des messages sur les systèmes de pilotage. Donc je dirais que les premiers messages en tout cas ne font pas état de problème sur, le système de pilotage, de navigation ou sur la manière dont l'avion est piloté et navigue, ce qui est assez intéressant. En revanche, on ne peut pas dire que ce soit totalement discriminant sur une cause externe, terrorisme par exemple, ou sur une cause interne. Mais quand même, ces messages présentent un intérêt parce qu'a priori, ils nous éloignent un petit peu, je dirais, de la cause technique classique qu'on a hélas connue plusieurs fois, lié d'ailleurs à un problème technique et ensuite à un problème d'exploitation par l'équipage.
Merci Michel Polaco, vous étiez en direct pour France Culture, spécialiste aéronautique de Radio France. C'était une réunion en prélude au sommet des chefs d'État et de gouvernement du G7 la semaine prochaine au Japon. Le G7 Finance vient de se refermer après 2 jours de discussion, toujours au Japon. Les ministres des Finances du groupe des 7 ont une responsabilité importante à l'égard de la croissance mondiale actuellement menacée de récession. Or, le sommet n'a fait qu'accentuer les divisions, Frédéric Charles.
En cure, dans la petite station thermale de Hakiyu, dans le nord-est du Japon, les ministres des Finances du G7 ne sont pas parvenus à soigner les pathologies qui affectent une économie mondiale moribonde. Le trouble le plus sérieux observé chez les grands argentiers du G7 est une absence totale d'idées neuves. Le Japon n'est pas parvenu à imposer le principe d'une action budgétaire concertée pour doper la croissance mondiale. L'Allemagne y est opposée. Elle estime que les politiques monétaires ont atteint leurs limites. Pas question d'aggraver les dettes publiques par des dépenses budgétaires supplémentaires, sans réforme structurelle pour rendre l'économie plus productive et relancer l'investissement. Les ministres des Finances du G7 se sont contentés de réaffirmer leur promesse de ne pas céder à la tentation de dévaluation compétitive, ce que menace toujours de faire le Japon. Le G7 s'est enfin engagé à renforcer la lutte contre le financement du terrorisme international. Il faut lutter contre l'anonymat, a déclaré Michel Sapin, le ministre français des Finances, comme les cartes prépayées anonymes, des mouvements de cash qui permettent anonymement de financer le terrorisme.
La correspondance à Tokyo de Frédéric Charles. Éclaboussé par plusieurs affaires de pédophilie dans son diocèse de Lyon, le cardinal Barbarin sort de son silence. Après avoir été chercher le soutien du pape au Vatican, hier, il s'est exprimé dans plusieurs médias, dont Radio France. Maurice Fusier a pu recueillir en longueur sa parole. En voici un extrait.
D'abord, il fallait travailler. Ouais, c'est-à-dire, il fallait écouter les victimes, il fallait prendre le temps d'analyser, de voir les erreurs qu'on avait commises, de comprendre la profondeur de ces souffrances. Vous n'imaginez pas tout ce que j'ai appris en écoutant les victimes et leurs parents, et les heures qu'il a fallu pour ceci. Et à ce moment-là, de comprendre que même des faits très anciens avaient étaient une brûlure actuelle, quoi, pour eux. Et c'est ça dont je ne m'étais pas rendu compte.
Bonjour François Devaux.
Bonjour.
Vous êtes le président de l'association La Parole Libérée, qui regroupe notamment les victimes de 5 prêtres du diocèse de Lyon. Comment analysez-vous cette sortie dans plusieurs médias du cardinal Barbarin?
Il a fait une première sortie dans le Figaro qui montrait de la compassion et de la sincérité, ce qu'on n'avait pas vraiment ressenti jusqu'à maintenant, mais bon... ce que j'entends là, on est assez affligé en fait cette parole. Voilà, pour nous, il y a nullement besoin d'attendre le résultat de la procédure judiciaire pour juger de la moralité. On est sur un combat moral. La démarche judiciaire n'est là que pour étayer cette démarche de morale et de prise de conscience qui nous semble très importante.
Oui, vous faites partie de ceux qui disent pas besoin d'une décision de justice pour prendre ses responsabilités.
Bah oui, c'est clair et net. Enfin voilà, on est depuis 2014 sur ce en contact avec le diocèse de Lyon et on se rend compte qu'il a fallu pousser et qu'il soit complètement acculé pour enfin prendre la mesure des choses. Ils mettent en place des cellules d'écoute, mais qui étaient déjà présentes avant, qui ont conduit à faire rencontrer des victimes avec leurs bourreaux, tout ça finissant avec un autre père main dans la main. Et voilà, donc aujourd'hui, les valeurs la confiance est clairement rompue, et voilà, l'homme qui est à l'origine du problème ne peut pas être à l'origine de la solution. Il faut pas avoir fait de grandes études pour comprendre qu'on ne peut pas remettre un pédophile au contact d'enfants. Et le cardinal Barbarin savait très bien, puisque c'est lui-même qui a dû donner mon nom à l'enquêteur judiciaire. Donc ça veut dire qu'il avait le courrier de mes parents en sa possession. Donc quand on ne veut pas voir, on ne voit pas.
Il fait quand même preuve de bonne volonté, le cardinal Barbarin, dans les différents entretiens. Il propose un collège d'experts pour étudier le cas de certains prêtres, des cellules d'écoute. Vous venez de le dire, vous n'avez pas l'air convaincu. Et aussi une charte pour la protection de l'enfance. Cela va tout de même dans le bon sens.
Oui, ça va dans le bon sens, mais encore une fois, je ne suis pas sûr que ce soit grâce au diocèse lui-même, mais plutôt grâce à notre action. Et aujourd'hui, voilà, la confiance a été clairement trahie. Enfin, il y a quand même, il nous a expliqué au début de cette affaire qu'il était au courant depuis 2014, puis on se rend compte qu'en fait, il est au courant depuis 2006-2007. Ça se trouve, il est même au courant avant. Donc voilà, aujourd'hui on a la chance d'avoir une justice fiable qui va aller au bout de cette démarche et on va pouvoir comprendre les choses. Mais c'est en ça d'ailleurs que cette institution qui se dit garant de la morale ne peut pas s'appuyer sur les résultats d'une justice pour analyser la bonne morale et le bon sens de cette gestion. Il y a des cas de pédophilie dans le monde entier. Et dans certains pays, comme en Amérique latine ou en Afrique, on ne peut pas se baser sur une justice qui serait aussi fiable que celle de France. Donc voilà.
Au-delà du problème de l'Église sur ce sujet de la pédophilie dans l'Église, vous expliquez qu'il y a un décalage entre la réalité et ce que la société est prête à voir. Sur quoi vous basez-vous pour donner ce constat?
Oh bah, il suffit d'aller à la sortie des églises pour constater le déni, et puis on fait l'objet d'attaques récurrentes des fidèles de l'Église. On a affaire en fait à un système qui est quand même assez dangereux, c'est-à-dire qu'on a un pape qui prône une tolérance zéro avec des lois canoniques qui sont d'ailleurs bien faites, mais le chef de l'institution n'applique pas ça. C'est-à-dire que quand il rentre du Mexique, il le dit clairement lui-même, tout évêque qui replace un prêtre pédophile est un inconscient et le mieux qu'il ait à faire, c'est poser sa démission. Bon, là, on constate qu'il y a deux poids, deux mesures, peut-être parce qu'il s'agit de Primat de Gaulle et que ça aurait des conséquences dramatiques pour l'institution. Ensuite, on a une très haute hiérarchie qui est aujourd'hui prouvée, qui a prouvé son irresponsabilité et son inconscience par rapport à ça. Bon, on parle d'Anna Trella, on parle de Monseigneur Lalanne, qui est le référent de la cellule pédophilie dans l'Église de France, qui a protégé un diacre, selon France 3. On a le Primat de Gaulle qui a replacé, on a vu dans ses dernières affaires...
Oui, très vite, pour conclure, Monsieur Deveau, allez-y.
Et on a ces prêtres qui ne se désolidarisent pas de cette institution. Et en bas, on a des fidèles qui sont crédules et naïfs. Et donc, tout ça fait une mayonnaise dangereuse où on est loin de la remise en question qui est nécessaire sur des sujets aussi graves qui brisent des vies pour des décennies entières, des vies et des familles. Ouais.
Merci François Deveau d'avoir été en direct sur France Culture. Vous êtes le président de l'association La Parole Libérée qui regroupe notamment les victimes de 5 prêtres du diocèse de Lyon. Toujours en France, il est bien difficile de faire le plein de carburant dans certains secteurs du nord et de l'ouest du pays. Ce samedi, les blocages de raffineries se poursuivent en Seine-Maritime, par exemple. Près d'un tiers des stations essence sont en rupture de gasoil, 20% dans le département de l'Eure. Une quinzaine de préfectures ont pris des mesures de rationnement. Bonjour Éléonore Vanel.
Bonjour.
Nous faisons le point avec vous. Y a-t-il un risque de pénurie pour le carburant?
Alors, le secrétaire d'État chargé des transports, Alain Vidalis, se veut rassurant. À ce stade, il n'y a pas de risque de pénurie à court terme. Et en cas d'interruption des approvisionnements, les automobilistes peuvent toujours compter sur les réserves stratégiques, un stock réparti sur plusieurs sites en France et qui n'a pas encore été utilisé. Et puis le responsable syndical de la CGT Pétrole, Emmanuel Lépine, l'affirme, le but n'est pas de créer la pénurie, mais d'obtenir le retrait de la loi travail. Pour le moment, sur le territoire, il y aurait environ 10% de rupture sur les essences et 23% sur le gasoil. Les pouvoirs publics ont donc mis en place des mesures de rationnement depuis hier. Dans certaines préfectures, comme en Ille-et-Vilaine ou en Loire-Atlantique, les automobilistes ne peuvent pas retirer plus de 20 à 30 litres de carburant. Pour les conducteurs de poids lourds, la limite va de 40 à 150 litres. Le stockage de carburant dans des bidons est aussi interdit à certains endroits, comme en Seine-Maritime ou dans le Calvados. Et puis, le gouvernement est passé à une phase plus offensive. Le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, affirme que sur les 8 lieux de stockage de pétrole bloqués en France, 6 ont été libérés, soit par la négociation, soit par une intervention des forces de l'ordre. Les camions de carburant sont eux autorisés à circuler tout ce week-end pour permettre le réapprovisionnement des stations-service.
Les précisions d'Éléonore Vanel. Un accord sur le travail du dimanche a été trouvé aux Galeries Lafayette, annonce la CFE-CGC et la CGT. Si cet accord est confirmé par la direction est validée par les autres syndicats. Le grand magasin du boulevard Haussmann deviendra le deuxième à pouvoir ouvrir le dimanche après le BHV du quartier du Marais dans le 4e arrondissement. C'est l'événement du week-end à Strasbourg. 7500 jeunes de toute l'Europe sont conviés pour échanger leurs idées sur l'avenir de l'Union au Parlement européen. Ils ont entre 13 et 30 ans et participent à la deuxième édition de la rencontre AI pour European Youth Event. 150 rendez-vous leur sont proposés avec des débats et des ateliers. Les conclusions seront transmises aux eurodéputés. Le temps de ce samedi est gris et orageux dans le nord, ensoleillé et chaud. Dans le sud, il fera 16 à 22 degrés en Bretagne et sur les côtes de la Manche, 22 à 27 partout ailleurs et jusqu'à 30 degrés dans le sud-ouest. Ce journal a été préparé avec Emmanuel Faucillon.